certaines personnes, ça donne un jeu de réalité virtuelle.
Salut à tous sur Game Radio, c'est Kalia pour un test que vous étiez, je crois, assez nombreux à attendre. Un test d'un jeu bien barré, comme je les adore, qui pour l'instant n'est sorti qu'au Japon. Heureusement, ça devrait plus tarder à changer. J'ai donc nommé Catherine sur PS3, que j'ai eu le plaisir d'acheter avant-hier et de tester assez en longueur hier. Je vais donc pouvoir reprendre une nouvelle partie du début pour vous faire découvrir un petit peu le jeu dans sa version japonaise en exclusivité. Alors comme sur le test de la story, j'ai bien peur que la qualité du son ne soit pas tout à fait à la hauteur, donc vous m'en voyez vraiment désolé. Encore une fois, j'ai pas le matériel nécessaire pour enregistrer à la fois le son du jeu et ma voix dans des bonnes conditions. Donc nous voici sur le menu du jeu. Ce que vous entendez là, c'est un mouton en train de tomber, qui vient de s'écraser dans une gerbe de sang sur une dalle, et nous voici sur l'écran d'accueil. Écran d'accueil qui donne déjà bien l'idée du genre de jeu que nous allons découvrir, puisqu'il met en scène donc le personnage que vous venez d'entendre crier, le personnage principal, appelé Vincent, crucifié dans des fils barbelés, à une espèce de tour sur laquelle est assise Catherine avec un K, sa copine de longue date. Et voilà la vidéo de démonstration qui commence. Je vais en profiter d'ailleurs pour ceux qui ne sont pas tenus à jour pour vous présenter un petit peu le contexte et les personnages. Donc vous incarnez Vincent, un trentenaire tout ce qui est plus ordinaire, amoureux de longue date de sa copine Catherine, Catherine avec un K, qui ne lui demande qu'une chose, c'est de se marier. Mais cet amour apparemment idyllique va être bouleversé lorsque Vincent va rencontrer Catherine avec un C, une jeune femme très aguicheuse, avec qui il va, comme vous en doutez, fauter. Donc, vous l'avez remarqué, c'est un thème particulièrement original, particulièrement adulte pour un jeu vidéo, c'est ce qui m'a attiré en premier lieu. L'autre chose qui m'a attiré, c'est que c'est un jeu Atlus. Atlus qui est connu pour faire des jeux très particuliers, très barrés et très difficiles. Et là-dessus, je peux vous assurer qu'on est servi. Puisque je peux vous dire tout de suite, j'ai donc joué 3 heures hier. C'est dur, mais c'est dur, c'est d'une difficulté. Et figurez-vous que le jeu a déjà été patché pour réduire la difficulté. Parce que les joueurs japonais se sont plaints, la frustration c'est juste trop grande. Quand des joueurs japonais se plaignent de la difficulté, vous savez qu'il y a vraiment un problème quelque part. Hier, quand j'ai joué, je l'ai fait au niveau difficile, comme je fais toujours. Et sans mentir, j'ai galéré pour passer le premier niveau, le didacticiel. Donc aujourd'hui, on va jouer au niveau normal, que j'ai testé aussi, qui est quand même un bon challenge, même s'il est nettement plus facile, nettement moins difficile, on va dire, que le niveau difficile. Donc on y va, on a le menu, on a le mode Golden Theater, qui est tout simplement le mode histoire, le mode Babel, qui est un mode score, et la configuration. On va donc commencer un nouveau jeu, et reprendre tout ça depuis le début. J'ai essayé de vous emmener jusqu'à la fin du deuxième niveau, pour que vous puissiez avoir un assez bon aperçu, je pense, du jeu. En niveau normal, pour que je puisse quand même avancer sans vous m'entendez pester trop souvent. Et la voix nous fait bien nous amuser. Je pense que c'est de l'ironie, et qu'elle se réjouit secrètement de voir nos larmes. Et voilà, donc, la vidéo d'opening. Que vous avez pu peut-être voir sur internet, elle a déjà été diffusée. C'est une vidéo dans un style très particulier, plein de couleurs, avec de très nombreuses références cinématographiques, on va même avoir passé Godzilla par exemple. Alors, je suis sûr que j'en rate pas mal, mais voilà, on voit des films policiers, des films science-fiction. Des films d'amour évidemment. Ici on a une parodie de The Ring. Et ici des 10 commandements. Non, ne me demandez pas ce que ça a à voir avec le jeu, j'en sais rien. Et qui s'affiche à l'écran Golden. Golden, c'est le nom du bar où est en train de nous accueillir une dame très sulfureuse avec une coupe afro particulièrement impressionnante. Elle nous souhaite la bienvenue et se présente. On l'appelle la Vénus de minuit. Elle nous demande à nous joueurs si nous avons déjà fait un rêve où nous tombions. Elle nous dit qu'il y a une rumeur qui dit que si on se réveille pas lorsqu'on tombe dans un rêve, on peut en mourir pour de bon. Elle allume la télé et nous explique quelle histoire elle va nous raconter. L'histoire de Vincent Brooks, qui va donc affronter les démons de la vie réelle, en la personne de sa copine et de la guicheuse Catherine, et les démons beaucoup plus fantasmagoriques qu'il va croiser dans ses cauchemars. Puisque si vous avez un petit peu suivi, l'essentiel du gameplay du jeu se déroule dans les cauchemars de Vincent, dans un univers tout à fait particulier. On va voir ça tout de suite. On y va, on plonge donc dans la télé et dans l'histoire. Et voici une autre vidéo d'intro que vous avez également pu voir sur internet. Alors vous aurez reconnu la musique de Shoji Meguro, qui a un style assez inimitable. C'est lui qui a fait la musique des Persona. Cette vidéo sert essentiellement à nous présenter les crédits du jeu, donc les grands noms de la réalisation. Et elle se finit sur une magnifique vue du slip à pois rose de Vincent, c'est original. Et voilà, alors Vincent a changé de look. Il a pris son look de gameplay, c'est-à-dire avec des cornes de bélier, en slip à pois rose, c'est tout ce qu'il portait avec son oreiller sous le bras. Et il vient de pousser une porte qui l'a mené en bas d'une tour assez impressionnante. Il a l'air particulièrement surpris. C'est donc le début du premier cauchemar, le cimetière souterrain. Et nous voici donc en gameplay. J'en profite pour vous expliquer donc un petit peu le gameplay. Le gameplay qui a inquiété beaucoup de joueurs quand il a été dévoilé à cause de son concept pour le moins spécial, comme le jeu. De très nombreux joueurs s'attendaient à un RPG, mais pas du tout. Catherine est en fait un jeu de réflexion, un jeu de puzzle, basé sur des blocs à escalader. Vous êtes en bas d'une tour constituée de cubes que vous devez escalader jusqu'à la porte de sortie en haut, pour échapper donc à la chute et à la mort certaine. C'est assez flippant comme cauchemar. Donc le principe c'est tout simplement de trouver un chemin à travers les blocs, de déplacer les blocs, et surtout de ne pas se faire coincer. Et ça a pas l'air dit comme ça, mais c'est vraiment difficile. Puisque le moindre faux mouvement peut vous coincer définitivement, et vous n'avez plus qu'à recommencer tout le niveau. Car oui, en mode normal et difficile, vous ne pourrez jamais annuler un coup. Et je peux vous dire que se coincer, ça va très vite. Je vais me lancer pendant que j'essaie de vous expliquer, ça va pas être facile. Et comme ça, vous allez pouvoir vous rendre compte. Donc comme nous avons un tacticiel avec quelqu'un qui explique à Vincent ce qu'il doit faire, c'est-à-dire grimper. Donc on y va. Ce que vous entendez là, donc, c'est Vincent qui grimpe. Alors j'essaie de me concentrer sur le jeu. Donc pour rendre tout ça plus amusant, vous êtes bien sûr en temps limité puisque les blocs du bas de la tour s'effondrent petit à petit. Vous courez donc sans cesse contre la montre. Vous devez donc tirer les blocs vers la gauche, vers la droite, ou vers l'avant, ou vers l'arrière, en évitant de vous coincer, c'est-à-dire de ne plus pouvoir avancer, ou de vous coincer entre deux blocs. Alors heureusement, vous pouvez vous agripper au bord des blocs et ainsi vous déplacer en araignée sur le bord de la tour. Et dans cette position, vous ne pouvez plus pousser les blocs. Alors comme c'est assez difficile à décrire, à conceptualiser, je vous conseille vraiment d'aller voir une petite vidéo de gameplay. Vous verrez tout de suite ce que je veux dire quand je vous explique que c'est vraiment très facile de se faire coincer. Puisqu'il suffit de tirer ou pousser un bloc un tout petit peu trop pour qu'une partie de la tour s'effondre et que vous ne puissiez plus accéder à la sortie. Alors, il faut bien sûr également éviter de se faire écraser par les blocs que vous pouvez faire tomber. Et bien sûr, tout en récoltant si possible les points, donc les différents items, par exemple là, la vie, l'oreiller que je viens de ramasser. Les différents items et les points et l'argent qui sont disponibles dans le niveau. Parce que oui, le jeu a un système de points qui est basé sur à quelle vitesse vous pouvez arriver à enchaîner les étages. Puisqu'à chaque étape de cube supplémentaire que vous grimpez, votre combo d'escalade augmente, ça multiplie vos points. Et bien sûr, vous ne conservez ce combo que pendant un temps limité. Il faut donc enchaîner les étages le plus vite possible. Donc, tout est question de réflexion rapide pour vous pousser à l'erreur. L'erreur qui arrive vraiment très vite. Je rappelle qu'en niveau difficile, je n'ai pas réussi à passer ce niveau avant au moins une heure. Alors, ce que vous entendez, cette espèce de bruit de prout immonde, c'est tout simplement des cubes qui tombent parce que je tire les cubes d'en dessous. Un cube reste en équilibre tant qu'un de ses bords touche encore un autre cube. Une fois que plus aucune de ces arêtes ne touche la structure, il descend jusqu'à toucher l'arête d'un autre cube. Donc des grandes parties de la tour peuvent s'effondrer d'un coup. Il faut soigneusement le calculer, ça peut bien sûr vous servir ou vous condamner à mort. La phase de bruitage que vous entendez, c'est quand un cube se cale contre l'arête d'un autre cube. Et donc la cloche que vous entendez, là, elle annonce en fait la fin du niveau. Plus on se rapproche de la cloche, plus on se rapproche de la fin. Sachant aussi que plus on s'approche de la fin du niveau, plus évidemment c'est difficile. Voilà, là c'est plutôt facile, mais cette dernière partie du niveau 1, j'avais galéré, elle m'avait coincé. Puisque, évidemment, vous avez tendance à être coincé à un ou deux étages de la fin. Voilà, j'ai fini, j'ai gagné le premier niveau. Vous avez donc tendance à être coincé tout proche de la sortie, parce que vous avez fait tomber un cube ou deux de trop. Alors là, une cinématique de fin. Au fond du gouffre auquel Vincent vient d'échapper, nous avons une espèce de grondement qui monte et des mains menaçantes qui s'agitent. Ça annonce un boss que nous verrons un peu plus tard. Alors voilà, donc là ce qu'on entend c'est le décompte des points, donc qui dépend bien sûr de la vitesse, du nombre de points que vous avez ramassé, du nombre de fois où vous êtes monté, redescendu, vous avez coincé et pataugé un peu un étage. Alors là, comme évidemment, comme je parlais en même temps, j'ai eu le prix de bronze, pas plus. Parce qu'en plus, le jeu est sadique et vous fait comprendre que vous avez peut-être gagné un niveau super difficile, mais vous l'avez pas fait tout à fait correctement. J'ai encore jamais eu médaille d'or, pour l'instant j'ai seulement eu de l'argent. Voici donc une autre cinématique animée. Vincent se réveille dans sa chambre, après donc ce cauchemar pour le moins étrange. Quel rêve horrible, dit-il. Alors il palpe son lit d'un air un peu incrédule, mais oui, ne t'inquiète pas, ce n'était qu'un rêve, pour l'instant. Alors Vincent est, comme vous l'avez compris, un protagoniste particulier, puisqu'il est tout ce qu'il y a de plus normal, ce qui est quand même assez rare dans un jeu japonais. Là, il répond au téléphone, et visiblement c'est son travail. Donc c'est un trentenaire tout ce qu'il y a de plus standard, avec un travail stable, une copine. Donc monsieur tout le monde, ce qui est quand même extrêmement intéressant, et qui permet au jeu d'aborder des problèmes de la vie réelle, ce qui est également très rare, une façon à laquelle les joueurs peuvent s'identifier. Enfin, une copine que l'on devine quand même assez, je sais pas si dominatrice est le mot correct, mais en tout cas assez stricte, puisque c'est elle par exemple qui met les sucres dans le café de Vincent. Il n'a pas trop son mot à dire. Alors Vincent lui demande si elle a déjà fait un rêve où elle mourait. Comme il a failli en faire un la nuit d'avant, mais grâce à mes compétences incroyables, Eudine n'est pas mort. Pas encore. Ça ne serait plus tardé. Catherine lui répond que non, mais elle a déjà eu un rêve où elle tuait quelqu'un. C'est un avertissement mal dissimulé, je pense. Et la discussion se poursuit sur un sujet pour le moins sérieux, puisque Catherine aimerait se marier avec Vincent, puisque ça fait longtemps qu'ils sont ensemble. Et Vincent a l'air un peu dubitatif, donc il s'engage pas trop et Catherine a l'air un peu déçue. On coupe sur des informations, enfin télévisées, qui parle de la mort d'un jeune célibataire, un trentenaire, dans son lit, une mort mystérieuse. Information télévisée qui passe à un bar où Vincent est en train de manger et boire avec ses amis. Vincent et ses amis sont en train de discuter le projet de mariage. Et donc Vincent a l'air vraiment pas convaincu, assez impressionné, pas trop envie de s'engager. Donc chargement d'une autre cinématique. Alors le jeu est extrêmement prolixe en cinématique, parce qu'en chaque phase de gameplay, pour l'instant, j'ai eu entre 10 et 20 minutes de cinématique. Et donc là, nous venons d'avoir un mail qui vient d'arriver sur des téléphones portables. Et donc c'est une des petites parties d'interactivité qu'on a pendant ces périodes de cinématique d'histoire. Puisque nous avons donc le portable de Vincent qui s'affiche, et nous pouvons circuler dedans comme un menu. Donc allons voir les mails qu'il vient de recevoir. Nous avons 3 mails. 2 mails de KidsPhone. Et un mail de Catherine, alors regardez, les mails de KidsPhone. Oui, voilà, c'est des didacticiels par rapport au mail. Et le mail de Catherine, qui lui, bien sûr, est beaucoup plus intéressant scénaristiquement. Alors comme il est assez long et en japonais, on va pas le traduire tout de suite, mais d'après ce que j'en vois rapidement, voilà, elle reparle de leur discussion d'avant, bref. Bon. Ce serait très long de tout traduire, il faudrait que j'aille sur mon dictionnaire, donc on va en rester là pour l'instant. Donc, en appuyant sur le carré, sur le mail de Catherine, je peux répondre ou pas. Sachant que, évidemment, la façon dont vous interagissez avec Catherine aura des influences sur l'histoire, son attitude envers vous changera, l'histoire changera, la fin changera aussi, visiblement. Vous pouvez lui répondre, sachant bien sûr que la réponse que vous lui faites est automatiquement écrite, c'est pas vous qui avez à l'écrire, encore heureux. Alors, de ce que j'en vois de la réponse de Vincent, il lui demande de pas trop se tracasser à propos de cette histoire de mariage, que lui aussi ne sait pas trop quoi faire, etc. Donc voilà, donc là j'ai répondu au mail et une petite barre vient de s'afficher à droite, une barre visiblement de morale, puisque nous avons un côté rouge avec un petit diable et un côté bleu avec un petit ange. Donc répondre à sa copine qui vous envoie un mail est considéré comme une bonne action, puisque j'en ai gagné un petit peu de morale du côté de l'ange. Vincent est donc toujours attablé à cette table, il n'a toujours pas envie de rentrer, on avance à la scène suivante. Et voilà notre dernier personnage principal. Puisque cette voix suraiguë de Midinette que vous entendez, c'est bien sûr Catherine avec un C. Donc pour l'instant, nous n'avons aperçu que la très courte petite jupe. C'est tout ce qu'on saura sur elle pour l'instant, puisque nous avons un fondu noir. Un chargement qui nous ramène dans le monde des cauchemars pour le deuxième niveau joué du jeu. Et donc nous voyons Vincent, dans ce costume slip et corne de bélier. Nous arrivons au niveau 2, la prison du désespoir. Et c'est là qu'on va commencer à en apprendre un peu plus sur le monde des cauchemars. Alors Vincent est en train de raconter qu'il ne se rappelle plus du tout de la soirée, qu'il comprend pas ce qu'il fait là. Pourquoi fait-il ce cauchemar bizarre qui arrête la suite du précédent. Hop, on enchaîne directement sur le niveau, on y va, on grimpe. Alors maintenant, nous commençons à avoir des nouveaux cubes. On en aura beaucoup, bien sûr, pour compliquer de plus en plus les montées. Maintenant, nous avons des cubes qui se désintègrent si vous marchez dessus plus de deux fois. Nous avons aussi des cubes que vous ne pouvez pas déplacer, évidemment. Donc il faut s'arranger pour les contourner. Et là, voilà, je me suis coincé, ça commence fort. Alors là, à partir de là, vous avez commencé à m'entendre pester, puisque je vais commencer à faire des bêtises. Voilà, ben, je me suis coincé, donc je recommence. Ça, c'est quelque chose que vous ferez très souvent. Pour éviter de perdre une vie, parce que oui, je vais vous le dire, mais il y a des vies dans un jeu de puzzle où vous n'arrêtez pas de tomber, de mourir, de devoir recommencer. Vous avez des vies limitées. En niveau normal, je crois qu'il y en a 9, mais en niveau difficile, vous n'en avez que 4. Je suis assez étonné de savoir qu'il y a game over, parce que si vous tombez, de toute façon, vous recommencez au début du niveau. Donc je me demande quelle punition horrible peut vous réserver le game over. Et voilà, comme je parle en même temps, j'ai encore déconné, je recommence. Voilà, à partir de ce moment-là, vous allez commencer à vous pester plus qu'avant. Et vous allez pouvoir, avec un petit peu de chance, réaliser à quel point ce jeu est à la fois accrocheur et frustrant. Parce que je dois vous avouer vraiment que je m'amuse beaucoup, beaucoup plus que ce que j'aurais pensé avec ce concept. C'est vraiment accrocheur. Mais c'est vrai que c'est extrêmement frustrant. Déjà, des premiers niveaux, je commence déjà à galérer. Alors, je vous imagine que ça va être dans les niveaux vraiment difficiles. Un autre problème, c'est que c'est extrêmement facile avec les commandes de faire un faux mouvement. On peut jouer avec le stick ou avec la croix. Il est vraiment possible de jouer avec la croix parce que le stick, c'est pas pratique dans un monde comme ça en demi-3D. Et malheureusement, c'est extrêmement facile de se tromper de bouton. Ça va vraiment très vite. Oh merde! Il suffit d'appuyer une fois dans la mauvaise direction pour se foutre en l'air. Il suffit de paniquer un tout petit peu parce que la monstre tourne et vous êtes foutu. Vraiment, vous referez tous les niveaux un bon nombre de fois, y a pas de doute. Sachant en plus que vous risquez de devenir fou assez vite avec les bruitages qui sont fort sympathiques, mais comme vous avez peut-être remarqué, ils sont tout de même assez répétitifs. Donc, les commandes, comme je vous le disais, sont dures à maîtriser. Au début, j'ai même l'impression qu'ils étaient mal foutus. Maintenant, j'en sors un petit peu mieux. Surtout quand vous êtes suspendu au bord d'un bloc, vous essayez de tourner autour, vous êtes placé en araignée, c'est très difficile de comprendre de quel côté il faut appuyer pour aller dans la direction qu'on veut. Parce que vos déplacements sont relatifs au cube, j'ai l'impression. Ce qui fait que parfois pour aller vers la droite de l'écran, il faut appuyer sur la gauche. Ça demande vraiment de s'habituer, ça vous fait perdre vraiment beaucoup de temps, surtout au début. Alors on s'approche de la sortie, voilà, j'y suis presque. Merde, et voilà, je vais m'énerver. Je crois que je vais quand même pouvoir gagner. Oui, c'est bon. J'ai merdé, mais j'ai pu sauver la situation. Donc pour le gameplay, c'est à peu près ça. Nous arrivons à une espèce de plateforme, visiblement de repos. Et nous rencontrons des moutons. Avec qui nous pouvons parler. Et un mouton avec une cravate, celui qui nous parlait visiblement depuis tout à l'heure, qui est une petite didacticienne, nous explique qu'ici, tout le monde, en fait, est humain. Mais chacun voit tous les autres sous forme de mouton. Donc Vincent apparaît aussi comme un mouton aux yeux de tous les autres moutons qu'il voit en ce moment. Et ce mouton, donc, visiblement aguerri, lui explique que c'est une sorte d'enfer pour moutons, que personne ne sait pourquoi ils sont là, mais qu'ils n'ont pas le choix, s'ils ne grimpent pas les tours, ils meurent. Donc nous voilà plongés dans cet univers plus ou moins infernal, des cauchemars, on grimpe ou meurt. Nous sommes sur une plateforme de repos, et puis ces plateformes, on peut sauvegarder, ce qu'on va faire tout de suite, et s'adresser à pas mal de PNJ qui sont tous doublés, et ça c'est vraiment un point fort du jeu. Les doublages sont extraordinaires. Je vous êtes pour vous en rendre compte tout de suite. Les dialogues aussi sont très bons d'ailleurs, hein. On va être vraiment dans l'ambiance. Quelqu'un se demande où il est, qu'est-ce que c'est que ce mouton crabe qui vient nous parler. Le mouton crabe c'est nous, hein. Qui comprend rien, qui veut qu'on l'aide, qui est perdu, un peu comme tout le monde ici, puisque tout le monde a la même situation que Vincent. Un autre qui dit qu'il va s'enfuir, qui en est sûr, qu'il n'est pas question qu'il meure dans cet enfer. Et Vincent lui demande de faire équipe, que Vincent pense à raison qu'ils seront plus forts à plusieurs, mais le mouton lui dit qu'il fait pas confiance, qu'il veut seulement sauver sa peau. Et ça c'est un thème vraiment récurrent du jeu, j'ai déjà pu m'en rendre compte. Le principe que chacun veut sauver sa peau en situation de crise. Puisque dans les niveaux suivants, vous ne serez pas seul sur la tour, d'autres moutons courront un peu partout et dont leur but sera également d'arriver à la sortie. Même s'ils ne vous agresseront pas directement, ils vont souvent vous gêner parce qu'ils vont aller piquer vos pièces, ils vont déplacer les blocs, parfois ils peuvent déplacer les blocs sur lesquels vous êtes et vous faire tomber. Et il peut vous empêcher aussi de monter sur des blocs, puisqu'il ne peut y avoir qu'une seule personne sur un bloc en même temps. Donc parfois, vous êtes poussé à faire dégager des moutons, même si c'est aussi des pauvres types comme vous, pour pouvoir avancer. Donc en gros, à vous débarrasser des autres pour sauver votre peau. C'est assez spécial comme concept, assez cynique, comment qu'on puisse dire. Et là, vous avez un mouton qui a l'air de pleurer dans un coin. Il dit, je veux pas mourir, il y a de paniquer un peu. Et là, nous avons un choix. Nous pouvons essayer de le calmer ou le faire taire. On va être sympa, on va essayer de le calmer. Et bien sûr, ça nous améliore un petit peu la morale du côté ange. Ah, et le mouton lui dit, c'est terrible, tout le monde ne veut sauver que sa peau, c'est affreux, je vais mourir, je ne suis pas assez fort pour grimper, etc. Là, nous avons un mouton allongé par terre. En proie au désespoir, visiblement, il n'y a rien à faire, je vais rester là, de toute façon, je vais mourir. Bref, c'est sûrement comme univers, comme vous pouvez vous rendre compte. C'est à la fois vraiment barré, amusant, parce que c'est des moutons, mais ça reste quand même particulièrement dérangeant. Donc, nous avons ces cloches, cet univers un peu infernal, et ce confessionnal au milieu, dans lequel nous allons aller, puisque c'est là que se trouve la suite. Nous parlons de l'autre côté du confessionnal, donc là où se trouverait le prêtre, et le prêtre nous dit de nous asseoir. Donc là, nous avons un mec en slip, à poire rose, avec son oreiller, des cornes de bélier, assis dans un confessionnal. C'est pas une vue qu'on voit tous les jours, c'est moins qu'on puisse dire. Et donc la voix nous explique que nous, les petits moutons, avons été choisis pour mourir dans cet enfer. Ce prêtre nous explique qu'il veut voir comment ces petits moutons vont lutter pour leur vie. Et qu'il va leur poser des questions pour évaluer leur vie. Et la première question, et ça c'est quelque chose d'assez particulier, le jeu vous pose une question à vous, joueurs. En l'occurrence, la question c'est pour vous. Le mariage, est-ce le début de la vie ou la fin de la vie? Et là, alors je trouve que c'est très sympa comme idée, mais il y a quelque chose qui m'a un peu gonflé. Je vais faire comme la dernière fois, c'est-à-dire que je vais répondre, le mariage c'est la fin de la vie. Parce que je ne crois pas, hein, ce genre de mariage, c'est mon droit le plus strict. Sauf que, selon la réponse que vous donnez, le jeu modifie votre barre d'éthique. C'est-à-dire qu'en répondant que pour moi, le mariage, c'était pas quelque chose de souhaitable, le jeu m'a ramené ma barre d'éthique dans le rouge. C'est-à-dire qu'en gros, pour le jeu, ne pas croire au mariage, c'est après du même niveau que faire taire un mec qui est en train de pleurer, en train de paniquer. C'est très plaisant. Ça, c'est un côté assez récurrent des jeux soi-disant à choix moraux, qui tend à me gaver un petit peu. C'est-à-dire qu'on propose soi-disant un choix moral, mais vous êtes jugé pour votre choix. C'est-à-dire que là, le jeu me pose une question intéressante, mais en gros, si je réponds la réponse fausse, il me punit, il me dit c'est pas bien. C'est un peu dommage, je trouve, pour un jeu qui abordait un sujet aussi original d'une façon plus adulte, de porter ce genre de jugement. On n'a pas à être jugé par un jeu, quoi. Bref, nous avons répondu à cette fameuse question, et donc nous avançons. Et le confessionnal décolle comme une fusée pour nous emmener à la suite du niveau. Et pendant l'écran de chargement du niveau, nous avons quelque chose de très sympa. C'est que le jeu nous montre les réponses des autres joueurs. Alors là, en ce moment, je joue offline, parce qu'au moment où j'enregistre ce test, le PSN n'a pas encore été rétabli au Japon. Il est établi partout ailleurs, mais pas encore ici, malheureusement. Donc les réponses que je vois là, c'est une enquête pré-enregistrée dans le jeu, qui nous apprend qu'à 80%, les hommes ont répondu que le mariage, c'est le début de la vie. Dans le cas des femmes, chose amusante, c'est un petit peu moins écrasant, c'est 70% environ seulement. Dans les deux cas, l'opinion du mariage a l'air très positive. On pourrait l'expliquer notamment que dans une société japonaise, c'est effectivement un facteur d'intégration sociale très très important. Donc on poursuit de niveau 2, la prison du désespoir. À Vincent incrédule, comment ça continue? Et oui, ça continue. Ça devient de plus en plus difficile. Alors il y a en tout 8 mondes, quoi, qui comporteront donc chacun plusieurs parties comme ça. Donc, ce qui doit faire donner pour une bonne durée de vie en comptant le nombre de fois que vous allez pester et devoir recommencer chaque niveau. Et maintenant, on commence à voir les autres moutons qui grimpent avec nous. On les voit en arrière-plan, ils sont sur leur propre tour, mais ils vont aussi apparaître sur notre tour, à nous. Alors maintenant, il y a également des items qu'on peut récolter. Là, par exemple, je viens de récolter un bloc que je peux faire apparaître moi-même. Donc, si j'ai un bloc à pousser, je peux en faire apparaître. Hein. C'est un item qu'on peut utiliser qu'une seule fois, bien entendu. Donc, à garder précieusement. Et là, voilà, nous croisons un autre mouton. Donc, qui essaye aussi de s'échapper, qui grimpe comme nous. Et donc voilà, là par exemple, qui vient de parasiter un cube que je viens de tirer, saleté. Donc là j'ai retiré le cube de sous ses pieds et il est tombé comme vous avez pu l'entendre, je me sens un petit peu monstrueuse. Ah saleté, le mouton en face m'a piqué mes sous, parce que sans faire exprès en poussant des blocs, je vais vous faire un escalier pour le faire. Ma faute. On va faire dégager. Purée, disons, c'est seulement de pauvres types qui veulent vous échapper, mais en fait en termes de gameplay, ils sont là pour vous emmerder, puisque là il vient de pousser des blocs sous moi et donc de me coincer. Mais tu vas dégager, saleté. Alors après, il squatte sur des blocs sur lesquels vous voulez monter, pour vous ralentir. Merde. Et voilà, là il m'est arrivé quelque chose qui m'est arrivé très souvent, c'est-à-dire que je suis tombé le bouton et donc je suis tombé. Ou là vous entendez donc le fameux bruit de Game Over, ou plutôt Love is Over dans le cas de ce jeu. Et donc il m'affiche le nombre de vies restantes et un retry. On est reparti. Allez, il faut quand même que je vous emmène jusqu'à au boss du niveau 2. Alors, on peut se laisser tomber deux blocs, mais pas plus, sinon c'est la mort. Hop, ça y est, j'ai fini donc la deuxième partie du niveau 2. Alors, je parlais tout à l'heure de la difficulté et à la fois de l'intérêt du jeu. Comprenez bien que chacun de vos mouvements influence tout le haut de la tour. Ce qui fait qu'en général, vous êtes coincé vers le haut, parce que vous vous rendez compte que vous avez fait tomber un petit peu trop de blocs, et du coup, vous êtes coincé à un étage ou deux étages trop bas pour accéder à la sortie. Donc c'est extrêmement frustrant parce que vous devez tout le temps adapter votre style de jeu au fur et à mesure pour vous adapter aux situations, aux moutons qui poussent et qui bougent des blocs, etc. Tout en pensant aux conséquences sur le long terme. C'est vraiment pas évident et bien sûr ça empire au fur et à mesure puisque le nombre de blocs se diversifie. Donc on a par exemple des blocs plus lourds qui prennent plus longtemps à bouger, ce qui est très grave puisque évidemment le compte à rebours est vraiment vraiment ric-rac. Vous avez aussi des blocs qui s'effritent après deux passages. Et dans le niveau suivant, on ne le verra pas dans ce test, dans le niveau 3, on commence à avoir des blocs avec des pics. C'est-à-dire que quand ils passent, des pics sortent. On ne peut pas rester dessus. On passait dessus trop longtemps. On poursuit directement vers la troisième partie, la dernière, du niveau 2. Alors, la troisième partie du niveau 2, je voulais absolument vous la montrer parce que c'est le premier boss. Ça permet vraiment de se rendre compte déjà de la difficulté du jeu parce que les boss, c'est vraiment encore pire que le reste. Et de l'univers vraiment taré, vraiment impressionnant, dérangeant, donc délicieux, de Catherine. Ce que vous entendez là, c'est le boss qui dit « Tu ne m'échapperas pas ». Donc Vincent regarde en bas vers le gouffre, là d'où vient cette voix. Et deux immenses mains squelettiques avec de longs ongles vernis sortent du gouffre. L'une d'elles tient une fourchette. Et la voix appartient à Catherine, en tout cas selon Vincent. Ce boss s'appelle Fist of Grudge, donc point du ressentiment si vous voulez. Donc le boss en fait remplace l'écroulement des cubes en bas de la tour, il va beaucoup plus vite et il a des pouvoirs. Donc, celui-là peut en fait rendre les blocs sur lesquels vous trouvez plus lourds, c'est-à-dire qu'ils prennent beaucoup plus de temps à tirer, donc vous perdez du temps et vous rattrape plus vite. Donc le boss a pour but de vous stresser évidemment avec des cris et autres choses charmantes. Celui-là peut aussi vous embrocher avec la fourchette comme ça vient de m'arriver, voilà. Là, je viens de mourir dans une explosion de sang parce que le boss m'a rattrapé. C'est vraiment pas évident. On commence vraiment à arriver, même pour le mode normal, aux zones plus difficiles. Le mode normal est vraiment déjà un bon challenge, hein. Donc n'ayez pas peur, n'ayez pas honte si vous jouez au mode normal quand je sors. C'est compréhensible. Moi, je vais essayer de faire le mode difficile, mais je garantis pas que je vais m'en sortir. Allez, on avance, on s'est gagné de l'avance sur le boss, voilà. Et on se gourre lamentablement. Et c'est mort, j'ai plus qu'à réessayer. Donc comme vous l'avez compris, c'est un de ces jeux qui rend fou. Hein. C'est, vous avez les bruitages, vous avez l'univers, vous avez la frustration. Recommencer le même niveau à l'infini jusqu'à ce que vous y arriviez. Vous avez les vies limitées, c'est un jeu qui ne vous aime pas, qui vous fait comprendre. Et donc le plaisir de finir chacun des niveaux est d'autant plus grand. Alors la voix du boss qu'on entend de temps en temps dit « Je ne te le pardonnerai jamais ». Vous vous doutez sans doute un petit peu de quoi ça va parler. Ça y est, j'arrive vers la fin. Ça va être bon. Oui, ça y est. Tada, gagné. Ah, tu peux être content, Vincent. On a galéré. Et vous reconnaissez la musique qui passe derrière. Alléluia, tout ce qui est plus classique. Car oui, la musique du jeu est donc composée à moitié des musiques un peu pop de Shoji Meguro et de musiques très classiques dans ce genre-là. C'est un mélange pour le moins original. Voilà donc la fin du niveau 2. On va faire la scène cinématique qui vient juste après, c'est là elle qui lance vraiment le jeu et l'intrigue, donc elles sont intéressantes, et on va se laisser là-dessus. Revoici Vincent qui se réveille, exactement de la même façon que le jour précédent, sauf que cette fois-ci, dans son lit, il n'est pas seul. Et celle qui est à côté de lui, vous en doutez, ce n'est pas sa copine. C'est l'autre Catherine. Il s'en aperçoit, et là il fait une tête qui veut dire « Oh merde ». Et nous avons donc droit à un flashback qui nous explique comment il en est arrivé là, avec donc cette jolie inconnue qui s'est assise à sa table le jour précédent. Donc avec qui il discute de ses projets de mariage encore une fois, et Catherine sait. Donc extrêmement jolie, hein, elle porte des vêtements vraiment très très courts, on croirait presque que c'est une nuisette, une blonde, avec des jarretières qui croisent et décroisent soigneusement les jambes pour montrer sa culotte. Alors qu'elle était en face de Vincent, et tout d'un coup, la voilà qui s'installe à côté de lui, qui boit son vin d'une façon tout à fait lascive. La mise en scène est vraiment très réussie, parce qu'elle est vraiment, vraiment très belle, très sexy, très sensuelle, qu'on comprend tout à fait l'émoi de Vincent. Un gros plan sur ses cils qui papillonnent. Ah, et la voilà donc qui minaude, qui se jette sur les genoux de Vincent, pour l'allumer, évidemment. Mais quel est son but? Ça, nous ne savons pas. Et voilà, donc la femme agressive entend sa beauté, puisqu'elle vient tout simplement de l'embrasser. Et donc voilà, de fil en aiguille, on en est venu à la nuit ensemble, visiblement. Retour dans le lit, et Vincent se dit « Merde, 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 qu'est-ce que je vais faire ?» Et nous avons Catherine qui est de nouveau agressive, puisqu'elle s'allonge tout simplement sur lui. Encore une fois, c'est des images particulièrement osées pour un japonais. Même si normalement pas grand-chose, hein, je ne vais pas vous donner faux espoirs, on ne voit pas grand-chose. C'est-à-dire qu'on peut être sûr de même pas voir un seul sein dénudé de tout le jeu. Hein. Tout est suggéré. Hors champ. Et alors Vincent essaie de lui dire qu'il avait déjà une copine. Mais Catherine, d'un coup, s'éjecte du lit en disant « Il faut que je laisse travailler, moi aussi j'ai rendez-vous chez le dentiste. » Et elle s'en va en coup de vent. Et voilà donc Vincent, seul dans sa merde, en train d'essayer de se persuader que c'est un accident. Et va expliquer ça à ta copine. Donc les scènes qui suivent, c'est principalement Vincent qui va discuter tout ça avec ses copains. Ses copains donc qui vont chacun lui exposer leur vue sur la fidélité, le couple, etc. Donc pas mal de débats quand même dans le jeu. Bah, c'est assez intéressant, mais comme c'est principalement du dialogue, là on va passer les cinématiques. Parce que oui, on peut passer les cinématiques, et encore heureux, parce qu'elles durent toujours entre 10 et 20 minutes. Donc voici tout simplement la situation. Voilà Vincent coincé entre deux femmes, donc sa copine de longue date, et la jeune fille aguicheuse et très belle à qui il a fauté, coincé aussi avec ses cauchemars. Et nous voici donc de retour au bar avec trois amis de Vincent, et c'est là qu'on va nous dévoiler le dernier fil de l'intrigue, comme quoi ces morts répétées de jeunes célibataires seraient en fait la vengeance de femmes avec qui ils auraient joué, avec qui ils auraient brisé le cœur. Dans le jeu, ils appellent ça en gros la vengeance des femmes bafouées. Comme s'il y avait que les hommes qui brisaient le cœur des femmes. C'est pas abusé non plus, vraiment. Là, on est dans cette situation-là. Donc Vincent a avoué à ses copains qu'il a trompé sa copine, et tous ont bien sûr un avis différent sur la conduite à suivre. Bref, dialogue. Un dialogue de haute qualité, hein, il faut l'avouer. Même si on regrette un petit peu, c'est vrai qu'il n'y a pas plus d'interaction. Il y a un côté un peu Heavy Rain à ces parties cinématiques, puisqu'on ne fait rien. On fait que observer l'histoire, c'est un petit peu long tout de même. Et nous voici donc à la dernière partie que je voulais vous montrer, le peu de gameplay qu'il y a en dehors des séquences de cauchemar. On est dans le bar, et on peut quand même interagir. C'est-à-dire qu'on peut parler avec les personnages, les PNJ, on peut se déplacer, on peut faire pas mal de choses. On peut par exemple aller changer la musique au jukebox, ou interagir avec le décor. Donc là on est plus effectivement à la logique film interactif, on peut avancer l'histoire à notre guise. C'est rien d'extraordinaire non plus, mais en gros ça permet d'influencer la jauge de morale, en discuter avec des personnages, échanger votre avis, interagir un peu avec l'univers d'une façon qui n'est pas uniquement grimper sur des blocs. C'est donc la dernière chose que je voulais vous montrer, et puisqu'on est maintenant dans un bar tranquille et au calme, je vais pouvoir en profiter pour tirer un petit bilan du jeu. Alors il fait aucun doute que c'est un jeu expérience, très atypique, qui vaut vraiment vraiment le coup. Même pour ceux qui sont déçus que ce soit pas un RPG, c'est vrai que l'univers aurait sans doute valu le coup en RPG, ça aurait été très original de voir cet univers barjo, semi-érotique, semi-horreur, fait en RPG, mais franchement, on n'y perd rien. Le concept de jeu, j'étais aussi dubitative au début, mais c'est très accrocheur, et franchement, c'est pas aussi limité qu'il n'y paraît au premier abord. Puisque déjà en 3 niveaux, on se rend bien compte que la difficulté est exponentielle, qu'il y a vraiment du challenge, et que ça peut se renouveler en ajoutant de nouveaux blocs, et d'autres moutons donc qui peuvent vous déranger, etc. Bref, il y a de quoi faire, et même s'il n'y a que 8 mondes, on a déjà eu le temps d'en faire 2 rien que pendant ce test, vu l'augmentation de difficulté, réussir à faire l'intégralité des 8 mondes prendra à mon avis beaucoup de temps, donc il n'y a pas à s'inquiéter trop pour la durée de vie, je pense. Niveau histoire et univers, c'est juste extrêmement original, ça vaut tout à fait le coup. C'est vraiment la première fois que je vois un jeu japonais déjà où on incarne un personnage de plus de 25 ans. Un personnage normal, avec des inquiétudes normales, des problèmes de la vraie vie, qui sont donc discutés de façon adulte et mature, ça fait vraiment plaisir. Même si, comme je vous l'ai dit, je n'apprécie pas trop ce côté jugement qui influe donc sur la jauge éthique selon vos réponses. Hein. On a quand même le droit d'avoir son avis sur le concept de couple, de fidélité et tout, sans qu'un jeu vidéo vienne vous juger là-dessus. Au niveau moyen mis en œuvre, on est vraiment dans un jeu AAA, donc ils ont vraiment mis la gomme. Donc on a énormément de cinématiques en animation qui coûtent très cher à réaliser, elles sont absolument magnifiques. Alors, les doublages japonais sont de très 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 haut niveau, on peut qu'espérer avoir quelque chose d'approchant en France, ou en tout cas en anglais. On a dit ne sera pas doublé en français, mais au moins on peut espérer des doubleurs anglais compétents. Dans les défauts, je ne peux relever que la difficulté qui risque d'être rédhibitoire pour beaucoup de gens. C'est vraiment un jeu sans pitié, même après le patch. Si vous voulez en tirer parti à 100%, il faut faire un avis mode difficile. Si vous pensez pouvoir résister à l'envie de massacrer votre manette, je sais que moi c'est ce que je vais faire et je pense que je passerai de très longues heures à pester et à refaire 20 fois le même niveau. Donc c'est un jeu pour les masos de la manette. Les autres, à mon avis, abstenez-vous, ça risque plus de vous frustrer qu'autre chose. En tout cas, ça fait vraiment plaisir de voir un jeu avec une véritable recherche artistique et une vraie prise de risque, tant au niveau de l'histoire avec des thèmes osés, qu'au niveau du gameplay qui a donc effrayé beaucoup de joueurs. C'est très réussi. Franchement, n'hésitez pas, foncez si vous pensez pouvoir résister à la difficulté. Allez, à bientôt pour un autre jeu japonais bien obscur et bien varié. À la prochaine fois et bon jeu à tous!